heureux de vous retrouver encore une fois dans notre carrefour. Oui, nous sommes tous là pour faire connaissance avec la science, la santé, découvrir davantage le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, le Suisse Bertrand Piccard nous explique que le Solar Impulse 2, l'avion solaire qui poursuit son tour du monde, suivra la planète rouge. Il y aura aussi de la science-fiction inspirée de la bombe nucléaire. Ce n'est pas tout. Nous irons au Sénégal, où la forêt de la Casamance est menacée par le business de bois, la grippe aviaire au Cameroun, le palu en RDC et bien d'autres sujets. C'est tout de suite dans Carrefour Science et Santé. Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. Bonjour et bienvenue à vous tous. Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours, dit un proverbe chinois. C'est donc le moment que VOA Afrique et Carrefour nous offrent pour enrichir notre savoir. Nos fidèles auditrices et auditeurs sont déjà au courant de l'avion volant exclusivement à l'énergie solaire. C'est le Solar Impulse 2. L'avion poursuit son tour du monde par une traversée des États-Unis. Il est reparti dans la nuit de mardi à mercredi d'Ohio. Ses ailes, plus grandes que celles d'un Boeing 747, sont recouvertes de cellules photovoltaïques qui actionnent les hélices en même temps qu'elles rechargent les batteries pour les vols de nuit. Pourquoi avoir opté pour l'énergie solaire? Qu'est-ce qui a poussé le goût de l'exploration? Le Suisse Bertrand Piccard, pilote de l'avion, l'a expliqué à Timothée de Nangmaï.
C'est vrai que mon grand-père était le premier homme dans la stratosphère. Mon père était le premier à toucher le fond des océans, au plus profond dans la fosse des Mariannes. Et ça m'a donné le goût de l'exploration, le goût de découvrir l'inconnu également. Et pendant toute ma vie, c'est vrai que j'ai aimé essayer de repousser les limites du possible. D'abord, c'était dans l'aviation ultralégère, le vol libre. Ensuite, c'était en ballon, quand j'ai fait le premier tour du monde en ballon sans escale. Et maintenant, avec Solar Impulse, la tentative de tour du monde avec un avion solaire qui vole jour et nuit sans aucun carburant. Tout ça, c'est des manières d'utiliser la technologie pour être en meilleure harmonie avec la nature.
Pourquoi le solaire, justement?
Parce que je pense qu'aujourd'hui, on présente beaucoup trop souvent les énergies renouvelables comme quelque chose d'anecdotique, voire même de menaçant pour notre confort et notre mobilité. Et moi, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'au contraire, aujourd'hui, les énergies renouvelables peuvent permettre des choses impossibles, incroyables, comme de voler jour et nuit avec un avion sans aucun carburant. Et tout ce qui est technologie propre aujourd'hui, aussi pour être plus efficient en énergie, hein, l'isolation des bâtiments, les moteurs électriques, les smart grids, hein, les réseaux de distribution d'électricité dits intelligents, tout ça, c'est pas seulement pour protéger l'environnement, c'est aussi pour faire du profit, créer des emplois, stimuler le développement économique et industriel, parce que c'est un nouveau marché qui est absolument énorme dans le monde entier, a besoin pour améliorer la qualité de vie. Les entreprises qui le comprennent vont avoir des nouveaux débouchés extrêmement favorables et positifs pour eux.
Alors pour lancer ce projet, vous vous êtes associé à un autre amoureux des aventures, André Boschberg.
Absolument. Quand j'ai eu cette vision d'un avion qui pourrait voler autour du monde sans carburant, j'ai approché l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse, l'équivalent du MIT suisse. Et l'EPFL a proposé une étude de faisabilité, a contacté André Boschberg, que je ne connaissais pas à l'époque, en lui proposant de diriger cette étude de faisabilité, parce qu'il est ingénieur, entrepreneur, ancien pilote des forces aériennes suisses. Et c'est comme ça que j'ai rencontré André. Il a mené cette étude de faisabilité extrêmement bien, et je lui ai proposé que nous nous associions pour continuer à mener ce projet ensemble, et ça c'était en 2004. Et depuis, nous travaillons ensemble, André dirige l'équipe technique. Moi, j'ai amené les partenaires technologiques et financiers pour le projet. Je m'occupe de la partie de la diffusion du message sur les technologies propres. André s'occupe aussi des missions de vol. Donc, on se partage vraiment le leadership de ce projet avec beaucoup de complémentarité entre nous. C'est très, très intéressant.
Alors, une description du Solar Impulse 2. Qu'est-ce que c'est comme avion?
Alors, vous vous imaginez un avion qui a l'envergure d'un jumbo jet, d'un Boeing 747. C'est 72 mètres d'envergure, mais le poids d'une voiture familiale. Il est construit en fibre de carbone, de manière extrêmement légère. Il a 4 moteurs électriques et des cellules solaires sur les ailes et sur le fuselage et sur la queue. Ce qui veut dire que pendant la journée, le soleil suffit à faire tourner les 4 moteurs et charger les batteries pendant le vol. Et puis pendant la nuit, on utilise les batteries pour atteindre le lever de soleil suivant. Et le lendemain matin, le soleil revient et on recommence un nouveau cycle d'un jour et une nuit. Et on arrive comme ça à voler, entre guillemets, perpétuellement. Quand André a volé du Japon jusqu'à Hawaï, il est resté 5 jours et 5 nuits en vol. Moi, depuis Hawaï jusqu'à San Francisco, j'ai volé 3 jours. Donc c'est extraordinaire. Vous vous dites que vous pouvez faire les plus longs vols de l'histoire de l'aviation sans aucun carburant quelconque. C'est incroyable. En fait, on se croit dans le futur avec la science-fiction alors qu'on est dans le présent. C'est ça qui me plaît le plus quand je vole cet avion.
Le Solar Impulse 2 ne prend pas de passagers à bord. C'est un vol solitaire mais qui mobilise un impressionnant dispositif de 150 personnes au sol pour assurer son fonctionnement. Bertrand Piccard.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité de mettre un deuxième siège dans le cockpit qui devrait être plus grand avec plus d'équipement parce que toute la charge utile est utilisée pour les batteries. Donc c'est passionnant. Quand j'ai fait le tour du monde en ballon, nous étions 2. Et c'était un vol de 20 jours sans escale. Mais 20 jours à 2, on se relaie, on peut se reposer plus facilement. Là, plusieurs jours, tout seul dans un cockpit d'avion minuscule, c'est vrai que ça nous fait... Ça nous oblige à développer des nouvelles techniques, autant pour se reposer que pour rester réveillé. André utilise du yoga, moi j'utilise de l'auto-hypnose, et ça nous permet vraiment de bien gérer nos vols. Autant lui que moi, nous sommes arrivés en très bonne forme après les vols les plus longs.
Vous utilisez un pilotage automatique peut-être ?
Alors il y a un autopilote qui permet de garder les ailes horizontales et d'avancer tout droit. Donc c'est un autopilote très simple, c'est pas comme dans un avion normal. Donc toutes les 20 minutes, il faut se réveiller pour contrôler que tout soit en ordre. Et ensuite, on peut refaire un cycle de 20 minutes de repos si on veut. Et ça, c'est seulement sur les océans. Quand on vole au-dessus des terres habitées, on peut pas dormir. On n'a pas le droit de dormir.
Vous avez une impressionnante équipe de soutien au sol.
Alors, c'est 150 personnes dans l'équipe de Solar Impulse. Il y a des ingénieurs qui ont construit l'avion. Il y a l'équipe de sol qui manipule l'avion, qui fait la maintenance. Il y a l'équipe de communication pour diffuser notre message sur les technologies propres. Il y a toute l'équipe de mission à Monaco qui est responsable de la météo, contrôle aérien, stratégie de vol. Il y a la logistique. Pour que l'équipe soit au bon endroit, au bon moment avec le matériel. C'est vraiment une grosse organisation. En fait, ce qui est amusant, c'est de voir que c'est quelque chose qui est considéré comme impossible et nous sommes complètement à la limite des possibilités technologiques, humaines, logistiques, organisationnelles, etc. Mais peut-être que dans 5 ou 10 ans, faire un tour du monde en avion solaire, ce sera devenu banal, ce sera devenu une évidence.
Dayton, dans l'État américain de l'Ohio, était apparemment une étape obligatoire pour vous.
Oui, c'est la ville des frères Wright. Et pour moi, pour ma famille, ça a une sonorité particulière parce que, en fait, l'aviation moderne aujourd'hui est une combinaison de ce que les frères Wright ont inventé et ce que mon grand-père a inventé. Les frères Wright ont inventé le premier avion. Et c'est vrai que c'est pas avec le premier avion qu'on peut transporter des gens à 10 000 mètres ou 12 000 mètres d'altitude. Et quand mon grand-père, en 1931, a fait la première ascension stratosphérique, c'est lui qui a inventé le principe même de la cabine pressurisée. Et c'est cette combinaison de l'avion et de la cabine pressurisée qui a permis à l'aviation moderne de se développer commercialement pour le transport.
C'est un avion impressionnant, n'est-ce pas? Mais à entendre les explications de Bertrand Piccard, ça peut nous paraître impossible. La clé de cette réussite, c'est l'innovation, comme nous le dit Bertrand Piccard au micro de Timothée Donangmaï.
Il y a beaucoup d'enseignements. Un des enseignements, c'est que quand tout le monde vous dit que c'est impossible, il faut quand même essayer. Parce que finalement, ceux qui vous disent que c'est impossible, ce sont des spécialistes. C'est ceux qui ont appris à faire des avions, c'est ceux qui ont appris à utiliser les technologies actuelles. Et donc ils n'ont pas appris à faire autre chose. Disons, si on veut vraiment créer et innover, il faut sortir du système. Et ce ne sont pas des partenaires aéronautiques qui nous ont aidés à financer et à construire notre avion. C'est l'industrie chimique, horlogère, des industries lourdes, des assurances, une marque de champagne. Tout ça, ça montre vraiment que si on veut être innovant, il faut remettre en question les certitudes, remettre en question tous les dogmes. Il faut arriver à penser autrement que ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant. Ça, c'est la grande, je dirais, le grand enseignement, la grande expérience psychologique. Et puis maintenant, ce qu'on voit, c'est que les énergies renouvelables permettent de faire des choses fantastiques, et surtout les technologies propres. Hein. Les technologies propres, ce n'est pas forcément produire de l'énergie propre. Les technologies propres, c'est surtout ce qui permet d'être plus efficient en énergie, d'économiser l'énergie. Et ça permettrait aujourd'hui de diviser par deux les émissions de CO2, tout en créant des emplois, du profit et du développement économique. Ça, c'est le grand enseignement, je dirais, utile pour la société en général.
Quelques moments particuliers de l'accueil qui vous a été réservé aux différentes étapes de ce voyage?
À chaque étape est différente. Hein. On a des moments fantastiques. Quand j'ai atterri au Myanmar, en Birmanie, à Mandalay, il y avait des centaines d'enfants qui dansaient, des orchestres, des acrobates qui étaient déguisés en animaux. C'était absolument fantastique. Quand on est arrivé à Dayton, il y avait les descendants des frères Wright qui sont venus nous accueillir. Quand j'ai atterri à San Francisco, il y avait Sergey Brin, Larry Page, les fondateurs de Google qui étaient là. Donc chaque escale a un charme particulier en fonction de sa tradition et de sa culture.
À quand le premier vol commercial à énergie solaire?
Alors, je serais fou d'y croire et idiot de ne pas y croire, si je peux m'exprimer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la technologie pour voler en avion solaire avec 200 passagers. Mais les frères Wright, en 1903, n'avaient pas non plus la technologie pour le faire. Hein. Les frères Wright, ils volaient comme nous, avec un avion monoplace, qui volait lentement, uniquement par beau temps. Et l'industrie a amélioré les technologies jusqu'à faire maintenant des avions qui volent avec 500 personnes. Donc, on voit bien que ce qu'il faut d'abord, c'est des pionniers qui ouvrent la voie et ensuite des industriels qui optimisent. Et même s'il n'y aura pas d'avion solaire très, très rapidement pour transporter beaucoup de monde, moi, je fais le pari que d'ici 10 ans, il y aura en tout cas des avions électriques qui transporteront 50 personnes. Et des avions électriques qui seront peut-être rechargés sur le secteur, hein, rechargés sur un smart grid, et qui transporteront 50 personnes et qui pourront atterrir sans bruit et sans pollution dans des aéroports urbains pendant la nuit. C'est des nouveaux débouchés pour l'aviation et pour les aéroports. Donc on voit que l'avenir sera électrique parce que c'est plus efficient, c'est moins polluant, ça améliore la qualité de vie. Et ceux qui comprendront ça vont se mettre très rapidement dans l'électrique. Les autres peut-être vont résister, c'est dommage, parce qu'il ferait mieux d'embrasser cette nouveauté et se diversifier.
Nous émettons en direction de l'Afrique, alors un message pour nos auditeurs africains?
Alors l'Afrique est un continent qui justement profiterait énormément des énergies renouvelables et des technologies propres. Parce que c'est rentable, parce que ça permet de créer sur place des infrastructures durables, des investissements qui créent des emplois. Et maintenant, quand on voit l'aide au développement, elle est souvent perdue parce qu'elle ne permet pas de créer des infrastructures. Si on pouvait maintenant utiliser des investissements dans les énergies renouvelables et dans l'électrification propre de l'Afrique, on pourrait aider le continent à devenir beaucoup plus riche. Et il y a un programme très, très intéressant sur l'électrification propre de l'Afrique qui est lancé par l'ancien ministre français de l'énergie et de l'écologie, c'est Jean-Louis Borloo. Et Jean-Louis Borloo s'est assuré le soutien de l'Union africaine et maintenant il essaye de trouver des sociétés, des entreprises mondiales pour investir pour son programme. J'espère que ça marchera et j'espère vraiment que l'Afrique pourra se développer dans ses technologies propres et de cette manière-là éviter de faire les mêmes erreurs que l'Occident qui a passé par la combustion, les moteurs à combustion, les chauffages à mazout, les systèmes polluants. Parce que maintenant, on doit tout changer, alors que l'Afrique pourrait être directement dans le 21e siècle. C'est vraiment ce que je souhaite à mes amis africains. Je suis souvent en Afrique et j'adore ce continent.
Merci à Timothée Donangmaï et à notre maître Bertrand Piccard. Comme le dit Paul Valéry, les maîtres sont ceux qui nous montrent ce qui est possible dans l'ordre de l'impossible. Rien n'est impossible. Vous pouvez aussi innover. Restons dans l'espace. Mars émerge d'une longue période glaciaire. selon des mesures de sécalotes de glace polaire. Dans une étude qui vient d'être publiée dans la revue American Science, des scientifiques indiquent que cela pourrait aider à déterminer quand la planète rouge a été habitable. Les précisions de Jacques Aristide.
Cette recherche confirme ce que des modèles mathématiques avaient seulement révélé jusque-là. Les chercheurs, dont Isaac E. Smith, du Southwest Research Institute à Boulder dans le Colorado, ont déterminé que les glaces ont commencé leur recul il y a environ 370 000 ans. Cette découverte est basée sur des observations faites avec un radar à bord du Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA qui orbite la planète depuis 10 ans. Ces travaux permettent de mieux comprendre les variations climatiques au cours du temps et en quoi elle diffère de l'évolution du climat terrestre. Comme sur la Terre, Mars connaît des cycles saisonniers, mais qui sont plus longs, ce qui agit sur la distribution de la glace. Ces cycles pourraient également être plus prononcés sur la planète rouge. Cela s'explique par le fait que l'axe de rotation de Mars connaît de bien plus grandes variations, allant jusqu'à 60 degrés sur des périodes s'étendant sur des centaines de milliers à des millions d'années. En comparaison, l'axe autour duquel tourne la Terre n'a varié que de 2 degrés sur les mêmes périodes. Cette grande variabilité de son axe de rotation détermine les quantités de rayonnement solaire atteignant les différentes latitudes à la surface de la planète et y détermine la stabilité de la glace. Avec le réchauffement aux latitudes moyennes, les glaces se sont accumulées au pôle. Depuis la fin du dernier âge glaciaire, il y a 370 000 ans environ, les chercheurs ont calculé, en mesurant l'épaisseur de la calotte polaire, qu'il y avait eu une accumulation de 87 000 km3 de glace, la plupart au pôle Nord. Ce volume est équivalent à une épaisseur de 60 cm si elle recouvrait l'ensemble de la planète. Ces résultats permettent de comprendre l'histoire de l'accumulation de la glace au pôle en fonction des axes de rotation de la planète et de ses orbites autour du Soleil, d'après les scientifiques. L'étude de la glaciologie sur Mars est importante pour l'exploration humaine de la planète dans le futur, car l'eau sera essentielle pour permettre l'établissement d'un avant-poste habitable, explique Isaac Smith. La NASA envisage une première mission habitée vers la planète rouge à l'horizon des années 2030.
Voici donc comment mieux comprendre les variations climatiques au cours du temps et en quoi elles diffèrent de l'évolution du climat terrestre. Le nucléaire et la science-fiction, c'est ce que nous découvrons à travers cette histoire que nous relate Chérubin Dorsil sur Hiroshima, qui reste le symbole du coup de la guerre nucléaire.
En 1945, le président Harry Truman faisait face à une décision délicate. Oui ou non, devenir le premier président en exercice à utiliser l'arme nucléaire pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Le Japon était la cible. La ville de Hiroshima est frappée en premier. Plus tard, un nuage atomique s'élève au-dessus de Nagasaki, alors qu'une deuxième bombe était lâchée par l'armée des États-Unis d'Amérique. À propos de la formulation d'une décision aussi fatidique, Truman affirmait « La bombe atomique n'était pas une décision géniale. C'était tout simplement une autre arme puissante à la disposition de la justice. » Pour les habitants de Hiroshima, c'était en effet une décision géniale, entre guillemets, une décision qui pourrait être mieux décrite comme traumatisante. Près de 140 000 personnes sont mortes ce jour-là, le 6 août 1945. 71 ans plus tard, un autre événement historique. Cette fois, la Maison-Blanche annonçait la visite du président Barack Obama comme étant la première visite d'un président américain en exercice à Hiroshima. Le mois dernier, le secrétaire d'État américain John Kerry est aussi entré dans l'histoire en devenant le premier secrétaire d'État en exercice à visiter Hiroshima. Aujourd'hui, près de 1 600 000 personnes semblent mener une vie normale à Hiroshima et Nagasaki. Mais la question demeure, ces villes sont-elles encore radioactives? La plupart des experts pensent le contraire. La raison est que la détonation des bombes nucléaires s'est produite à une altitude si élevée que les retombées radioactives ont été limitées. Les deux villes ont été reconstruites, mais elles représentent à ce jour des symboles du danger des armes nucléaires.
Et sans transition, nous nous promenons au Sénégal. De quoi s'agit-il? C'est la vente illégale de bois du Sénégal vers la Gambie voisine à destination de la Chine. Ceci menace la dernière grande zone boisée du Sénégal. En effet, la forêt de Casamance subit une forte déforestation et pourrait être totalement détruite si le trafic de bois ne s'arrête pas. Maïli Seguel a joint l'ancien ministre de l'Environnement et écologiste Haïdar El Ali qui a mené l'enquête.
Cela fait plusieurs mois que nous sommes dans le Medina Yorofula, qui est un département au sud du Sénégal, en Casamance, et nous avons constaté un pillage systématique des ressources forestières, essentiellement du bois de veine. Depuis 2010, on a constaté que des centaines de milliers d'hectares qui quittent nos forêts casamançaises et qui transitent par la Gambie pour aller en Chine. Ce sont des trafiquants à la fois gambiens et sénégalais qui livrent ce bois aux Chinois. Ce fléau est en train d'atteindre un niveau extrêmement inquiétant parce que maintenant, c'est tout le monde qui s'adonne à cela et malheureusement pour nous, l'État sénégalais ne met pas les moyens pour surveiller cette partie du Sénégal.
Quelles sont les conséquences pour l'environnement ?
D'abord, il faut savoir que la forêt joue un rôle extrêmement important dans l'écosystème pour l'agriculture parce que toute la matière organique, le compostage, la pluie, tout cela est le résultat de la forêt. Ensuite, l'élevage va avoir besoin du tapis herbacé pour se nourrir. Et enfin, la cueillette des fruits sauvages est essentielle pour nos économies des mamans qui vivent dans les villages. Avec toute cette histoire de réchauffement climatique, avec toutes ces préoccupations de disparition de la ressource, c'est notre économie qui s'en va. Et cela est extrêmement inquiétant parce que cela va causer à terme des réfugiés climatiques, des gens qui n'auront plus accès à cette ressource et qui vont prendre les pirogues pour aller grossir le ventre de l'Atlantique.
Pourquoi est-ce que personne n'a jamais agi?
En Gambie, l'exploitation du bois de veine est soumise à autorisation. Et c'est une société gambienne qui s'appelle Westwood qui délivre cette autorisation et qui touche 3 000 $ par conteneur exporté. Donc comme cela rapporte de l'argent à la fois aux exploitants gambiens et aux exploitants sénégalais, donc tout le monde s'y est mis. Les Sénégalais disent, puisque les Gambiens pillent nos ressources sans être inquiétés, mais nous allons aussi nous profiter de cette manne. Ensuite, le département de Medina Yorofula est un grand département où il n'y a pas de présence de l'État. Même nous, les défenseurs de l'environnement, quand on va dans ces secteurs, on est inquiété, on est menacé, on est poursuivi, on est chassé. Il y a des agents de proximité qui ont été tailladés à coups de machette par des exploitants. Il y a un chef de village qui a été tué. Donc les gens ont peur, ils n'osent plus défendre l'environnement. C'est extrêmement grave ce qui se passe.
Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour lutter contre cette déforestation ?
Pour une volonté politique extrêmement forte de la part du pouvoir politique, il faut donner les moyens à ceux qui ont envie de protéger cette forêt. Il faut une unité mobile à l'intérieur de ce département qui sillonne ce département et qui arrête les trafiquants.
C'est tout un patrimoine qui risque de disparaître. À vous de protéger les forêts partout où vous vous trouvez, à commencer par soutenir l'effort de l'écologiste Haïdar Ali en Casamance. Et avant de nous quitter, comment réduire l'ampleur du phénomène de l'avortement ? Les chiffres sont parlants dans les pays développés et sous-développés. Jamais les taux d'avortement n'avaient atteint un niveau aussi bas dans les pays développés. Par contre, dans les pays en voie de développement, ces taux sont restés élevés. Tatiana Mosso.
L'étude publiée dans la revue médicale The Lancet a constaté que les lois restrictives ne contribuent guère à réduire les taux d'avortement. Au contraire, elles ont plutôt tendance à favoriser les interruptions dangereuses de grossesse. Les chercheurs ont constaté que 56 millions d'avortements sont pratiqués dans le monde chaque année chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. Près d'une grossesse sur 4 se termine par un avortement. Ces résultats mettent en évidence le manque d'accès aux méthodes modernes de contraception dans les pays pauvres. Dans les pays en développement, les services de planification familiale ne semblent pas suivre le désir croissant d'avoir de plus petites familles, a déclaré Gilga Seb, qui a dirigé l'étude à l'Institut Guttmacher aux États-Unis. D'après l'étude, près de 75% des avortements sont demandés par des femmes mariées. Les taux d'avortement dans les pays riches sont tombés à leur plus bas niveau entre 1990 et 2014. On est passé d'environ 46 avortements pour 1000 femmes en 1990 à 27 avortements pour 1000 femmes en 2014. En Europe, cela s'explique principalement par une plus grande disponibilité des contraceptifs. Pourtant, dans les pays les plus pauvres, le taux d'avortement est resté pratiquement inchangé, en passant de 39 à 37. C'est dans la Caraïbe que les taux d'avortement restent les plus élevés, avec 65 avortements pour 1000 femmes, le taux le plus bas étant en Amérique du Nord, à 17.
Et c'est ici que nous mettons un point final à ce Carrefour Sciences et Santé. Merci de votre oreille attentive. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre pèlerinage avec Eric Manilakiza. Au revoir.